Donc, merci Thierry déjà et bonjour, merci à tout le monde en fait d'être là. Ce matin, nous avons vu un peu notre rapport au monde dans un sens large avec plusieurs approches. Et là, maintenant, nous allons voir comment ces grandes thématiques, elles s'expriment à l'intérieur de nous et dans nos corps en fait, dans notre unité psychophysique. Et comment ce que nous avons intégré du monde, en fait, physiquement, émotionnellement, comment ça agit sur le monde en retour. Donc, nous allons voir finalement comment l'intime est politique. Et nous allons faire ça comme une sorte de puzzle, en fait. Donc, avec toutes nos particularités, nos spécificités. Donc, et après, ça serait peut-être à vous de faire chacun son tableau à partir de ça. Et on va, Karim, il va parler de son expérience et de l'antériorité. Moi, je vais parler à partir du point de vue du corps en tant qu'unité psychophysique en relation au monde. Et Sophie, elle va nous amener à visiter les mécanismes sociaux aussi à partir de cette perspective qui relie à l'antériorité, à l'intime, au corps. Donc voilà, Karim, c'est comment pour toi?
Merci beaucoup Eloïsa. Tu parles d'intime, je vois que moi mon...
Micro.
Ah bah oui, je commence comme ça, ça ne va pas le faire.
Merci, j'ai besoin de coopération, et ben merci de le mettre en œuvre dès maintenant. Ce que je vous disais, c'est que pour moi, Eloïsa disait que l'intime est politique, j'ai vraiment l'expérience et la croyance que le rapport que j'ai à moi-même est intimement lié au rapport que j'ai au monde. Et réciproquement. J'ai des fiches et je vais les utiliser quelque peu parce que je vais prendre le temps vraiment d'utiliser le micro, c'est important. Donc je vous parlais de ce monde intérieur et l'invitation, on va le faire là, vous venez d'arriver, certains viennent de manger, peut-être certains ont couru pour arriver jusqu'ici. Moi, je vais prendre juste quelques instants pour voir comment je me sens. C'est quoi mon monde intérieur dans l'instant ? Alors, je vois que je suis un peu gêné par le bruit. Donc, qu'est-ce que ça vient faire dans mon corps? D'entendre le micro qui siffle. OK. Moi, je vois que j'ai la gorge serrée. J'ai le ventre un peu noué. Je me sens en même temps tout pétillant. Je vois qu'il y a de l'excitation pour moi, de l'excitation d'être présent. Je sens aussi de la chaleur dans le haut de mon corps, ici, à cet endroit-là. Et je vois que ce qui a comme énergie de vivant, c'est la gratitude. Gratitude d'être présent ici. Gratitude des personnes qui ont mis en œuvre cet événement. Sophie et Louisa. Et tout ça, ça vit dans mon corps. C'est-à-dire que là, je les nomme, mais si je prends le temps, c'est présent. Et donc, je vous invite à vérifier comment vous vous sentez. Donc, peut-être que c'est une question inconfortable pour certains. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas usuel de cette question, ben c'est ce qu'on va essayer d'explorer pendant cette petite demi-heure, voir comment finalement on peut rencontrer ce monde intérieur.
Merci Karim et Sophie, pour toi c'est comment?
Alors pour moi c'est comment, si je vous dessine ce qui se passe dans mon cerveau en ce moment, c'est un peu particulier, parce que j'entends beaucoup parler de guerre économique, j'entends beaucoup parler de guerre militaire, j'entends parler de conflits dans des pays qui sont soi-disant socio-ethniques. J'observe pas mal de désinformation et moi, j'analyse du management par la peur. Et ça, ça me fait pas plaisir et ça, ça m'inquiète un peu sur notre projet de non-violence. J'analyse les choses comme ça. Je me dis, il y a une alliance entre des régimes de plus en plus autoritaires et des oligarques de la technologie. Et on ne sait plus qui gouverne qui. Au niveau de la technologie, on construit un monde qui est complètement digitalisé, donc chacun devant ses écrans, la sociabilité directe est cassée. À cette désocialisation, on associe une désolidarisation. Il y a quand même Elon Musk qui a fait un podcast en février, relayé par CNN, qui dit que l'empathie est le suicide de la civilisation, notamment en Europe, et qui enchaîne sur la proposition d'enlever la protection sociale. Donc, désocialisation, désolidarisation Et puis, comme on l'a vu ce matin aussi, eh bien, des polarisations très fortes, notamment avec les réseaux sociaux, du fait de l'exacerbation de contenus extrêmes par les algorithmes, mais aussi du fait du manque de hiérarchie des informations. Hein, une personne qui trébuche, c'est du même degré d'importance que l'invasion d'un pays, quasiment. Ça crée quoi? Ça crée des sociétés qui sont hors sol, qui sont fragmentées, qui sont ingouvernables. Et à ce moment-là, on a des régimes de plus autoritaires qui arrivent et qui disent « Eh ben, nous, on va vous gouverner et on est des sauveurs ». Et une des manières de faire de ces régimes-là, c'est ce fameux management par la peur. C'est ce récit de guerre qu'on entend depuis plusieurs années, où il n'y a pas d'hiérarchisation entre une pandémie, c'est une guerre. Une lutte économique, c'est une guerre. Un problème social, c'est une guerre. Un conflit armé, c'est une guerre. Donc la récurrence de ce récit de guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il active en nous une peur qui nous fragilise, qui nous rend vulnérables. Donc, comme on est sur un fond, comme on l'a dit aussi ce matin, de très forte inégalité, quand on a un monde digitalisé et un management autoritaire par la peur, c'est délicat. Donc comment on fait pour retrouver un petit peu de pouvoir et un petit peu de liberté?
Voilà, le sujet est quand même un peu lourd. Et ben, dans notre approche, on va commencer par un jeu quand même. On va commencer en jouant. Et pour cela, je vous invite pour mettre dans le bain une micro-expérience. Donc, nous sommes là dans cette salle, sécurité apparemment, tranquille. Et on entend dans la radio, il y a des trucs là qui font sortir dans toute la salle, « Nous sommes en guerre ». Qu'est-ce que ça vous fait dans vos corps? Imaginez la situation. Nous sommes en guerre là maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous pouvez observer vos mains, par exemple? Ça vous fait quelque chose? Ou c'est la respiration, peut-être, qui s'arrête un peu? Ou peut-être c'est au niveau de l'estomac? Ou peut-être c'est, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des émotions associées à ça? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous traversent? Est-ce qu'il y a de pensées qui vous traversent? Et est-ce qu'il y a des envies de réagir tout de suite? Peut-être vos jambes sont prêtes à bondir tout d'un coup, ou peut-être vous êtes figé sur place, je ne sais pas. Mais on va voir un tout petit peu de cela, de cette variété-là, à travers le théâtre image.
Oui, c'est juste pour mettre un petit peu de légèreté sur des sujets un petit peu délicats. Mais on va avoir besoin de vous. Donc, est-ce qu'il y aurait une personne qui voudrait bien jouer avec nous? Je vous explique, la personne va rester à sa place, elle aura juste besoin de dire, quand on lui dira le mot-clé « action », de dire la phrase « nous sommes en guerre ». Est-ce que quelqu'un veut bien le faire? Toi? Ok. Tu parleras fort, quand tu entends le mot « action », je te fais un signe, t'envoies la phrase. Ok, c'est « nous sommes en guerre ». Super. Maintenant, on a besoin de tout le monde, parce que eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un mime avec quelques paroles, un mime de réaction possible. Ok? Donc, on va les lancer, on les encourager. Je vais proposer, je vous montre d'abord, on va se frotter les mains, et après on va faire 1, 2, 3 actions. Okay. Vous êtes prêts? Allez, on se frotte les mains, on se chauffe, on les chauffe, et 1, 2, 3, action! Bonjour monsieur, quelle est votre réaction?
Mobiliser. Il est temps maintenant, il est temps de se défendre. Je m'engage, j'engage mes économies dans cette guerre. Il faut défendre la nation.
D'accord. Et quelles sont vos pensées en ce moment?
À la guerre comme à la guerre. On nous a dit en guerre, on est en guerre. Il faut faire ce qu'il faut.
Ok. À votre avis, il se sent comment à l'intérieur? C'est quoi ses sensations physiques, ses émotions? Ok, on va lui demander. Tendu, stress, on entend plein de choses. Comment vous vous sentez?
Déterminé. Mais en effet, inquiet aussi. Envie de défendre les valeurs de ma nation. Ma famille, mon pays. Donc oui, tendu, mais déterminé.
Vous avez vraiment la ferme envie de protéger, de protection de votre pays, de votre famille, c'est ça?
C'est ça, prendre soin de ma nation et du pays de cette manière.
Ok, merci. Donc voilà, pendant qu'on a vu ce personnage, on a pu être plutôt en sympathie avec ou plutôt en antipathie, on a pu avoir des réactions différentes. Et en même temps, on peut se dire... ah mais tiens, mais moi j'ai peut-être une part de moi qui est comme ça, qui a envie de ça. On l'a dit ce matin, hein. Une des options, ça peut être de remilitariser l'Europe pour stopper des puissances, même quand on est pacifiste, ça peut être une option. Ok, on va en voir d'autres. Alors, on va se chauffer, on va les chauffer, on leur va leur faire un, deux, trois, attends, tu te prépares, ok, c'est prêt? Allez, on se chauffe, et un, deux, trois, action! Bonjour madame, quelle est votre réaction?
Moi, je vais au salon de l'armement, au Bourget, en juin.
D'accord, et quelles sont vos pensées en ce moment?
Mais, en fait, nous en France, il faut se protéger, et nous sommes quand même le deuxième pays exportateur d'armes, donc il faut jouer notre rôle.
D'accord. Et vous vous dites d'autres choses encore?
Oui, ben moi, en fait, vous voyez, nous sommes en guerre, il faut se protéger. Moi, je vends des armes. Donc, moi, j'ai aussi envie de réussir. Enfin, je suis partie de rien. Et là, je vais laisser la boîte à mes enfants aussi. C'est important pour moi.
Je comprends. Pause. Alors, est-ce qu'on arrive à se relier à la personne? C'est quoi ces émotions, ces sensations de cet être humain-là? Qu'est-ce qui vous vient? Il peut y avoir de la peur. Quoi d'autre? Ouais, une envie de réalisation, de reconnaissance. On va lui demander. Et vous vous sentez comment?
Moi, je me sens plutôt bien sur mes pieds, déjà, plutôt pleine. Et en même temps, je vois que j'ai un point d'inquiétude, parce que je suis quand même une petite tension, là. Ouais.
Oui, vous avez vraiment envie de protéger, c'est ça?
Oui.
Et je vous ai entendu dire que vous êtes partie de rien, que vous avez fait une ascension sociale. C'est important pour vous qu'on reconnaisse votre parcours?
C'est ça, en fait. J'ai fait bien mon travail. J'ai besoin de cette reconnaissance-là. Ouais.
Merci. Alors, pareil, hein, on peut se sentir proche ou pas proche du tout de ce personnage. Mais on peut aussi, si on prend quelques instants, voir qu'il y a une partie de nous qui peut réagir comme ça, qui peut avoir envie de sauvegarder ses intérêts dans un conflit. Alors, pas forcément en alimentant le conflit comme ce personnage, mais ça peut être, ne serait-ce qu'en se préservant du conflit. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, il y a des centres de recherche et des entreprises qui retirent le mot « diversité » de leur programme et de leur site Internet pour pouvoir rester sur le territoire. Donc, comment on fait? C'est pas évident. On essaye autre chose? On se chauffe, on les chauffe? Allez. T'es prêt? Allez, et 1, 2, 3, action!
Stop aux armes! Nous voulons la guerre!
Non!
Bon. Bonjour. Bonjour. Donc, si je comprends bien, vous faites une manifestation, c'est ça?
Ouais, pour arrêter les ventes d'armes et puis pour tout ce qui est guerre, tout ça.
Ok, et c'est quoi vos pensées en ce moment, vos revendications?
On veut que ça s'arrête maintenant, quoi. Les guerres, c'est un truc qu'on peut stopper rapidement.
Et on veut plus d'armes du tout dans le monde.
Nada. Fini les armes. Plus d'armes! Plus d'armes!
Ok. À votre avis, comment il se sent? En colère, indigné, révolté. J'entends pas tout, on va lui demander. Comment vous sentez?
Vraiment en rage, dégoûté. J'ai mal au bide. Faut que ça cesse, quoi. Faut que ça cesse.
Vous avez vraiment envie d'espoir, c'est ça?
Bah oui. Puis d'être là avec mon ami, bah on se dit que c'est possible, quoi. On peut le faire à deux.
Ok, merci. Alors pareil, hein, il peut y avoir une part de nous qui a envie de réagir comme ça. Et en même temps, il y a des personnes qui peuvent dire, alors une manif à deux avec ta cousine et ton cousin, c'est un peu irréaliste, un peu sacrificiel. Faudrait peut-être mieux faire des grosses manifestations de désobéissance civile comme on l'a vu ce matin, ou bien des boycotts de plus large ampleur. Vous demandez une trêve, mais en fait une trêve comme ça, sans réparation, vous entérinez des injustices. Donc vous pouvez reproduire des injustices, puis vous stoppez pas non plus les belligérants les plus puissants qui peuvent continuer à avancer. Bref, on peut avoir des tas d'arguments. On essaye encore autre chose? Allez, on se chauffe, on les chauffe. Et 1, 2, 3, action! Bonjour madame. Alors, quelle est votre réaction?
À quoi, pardon?
Ben, on vient de nous dire qu'on est en guerre, là.
Bon, ah non, mais moi, j'ai rien entendu, non. Et du coup, je pars à l'apéro, là, maintenant. Ah. Ouais.
D'accord. Et qu'est-ce que vous dites? Quelles sont vos pensées en ce moment?
En fait, je ne me dis pas grand-chose. Je pense que ça ne me concerne pas trop. Vous savez, moi, la politique, ouf.
D'accord. Et sinon, comment vous vous sentez?
Moi, je ne sais pas. Je suis bien, moi.
À part avec le bruit, vous ne ressentez pas beaucoup d'émotions en ce moment?
Non, mais en fait, moi, j'ai envie de me sentir bien, vous savez. Et du coup, j'y pense pas. Ça marche.
Vous avez vraiment envie de vivre de la légèreté, c'est ça?
Vous savez, la vie, elle est déjà assez dure comme ça. Et du coup, on ne va pas se prendre la tête en plus quand même. Il faut en profiter.
Je comprends. Merci. OK. Donc pareil, on peut se sentir proche ou un peu plus éloigné de ce personnage. On peut penser que les personnages sont caricaturaux, mais voyons ce que ça nous fait à l'intérieur de nous. On peut avoir une part de nous qui a envie de légèreté. Le seul truc, c'est que cette forme-là de légèreté, elle est dans le déni. C'est une forme de protection, on en a besoin. Mais si on l'élargit à un peuple ou à un groupe social, ben, le déni, ce n'est pas facile pour mobiliser des citoyens, pour résister ou faire des propositions collectives alternatives. On va essayer autre chose? Allez, c'est la dernière. T'es prêt? Allez, on se chauffe et on fait. 1, 2, 3, action! Bonjour.
Monsieur, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour. En fait, vous partez là?
Bah oui, il faut qu'on se casse là. Vous avez entendu, on est en guerre.
Oui, oui. Ok, en fait, vous...
Les enfants, la famille.
Vous partez, vous cachez?
On se casse à la campagne.
Et il faut faire des courses encore.
Ouais, les vivres, les nourritures, l'eau, tout ça, faut qu'on y aille, quoi.
Vous vous sentez comment?
Moi, terrifié. J'ai peur pour les miens.
Vous avez vraiment envie de sécurité?
Oui, et protéger ma famille, quoi, de les mettre à l'abri.
Ok, merci. Donc sécurité, protection, bien sûr, ça peut être la première réaction quand on entend ça. Le seul truc, c'est que quand on cherche la sécurité et la protection sur le repli, ben, on peut exacerber aussi des tensions sociales et des conflits directs, violents. Parce que l'individu, on l'a vu encore aussi ce matin, il va avoir tendance à prendre soin de soi, de ses proches et des gens qui lui ressemblent, de ses groupes d'appartenance les plus proches. Donc ça peut créer des conflits intercommunautés plus forts, plus directs. Ça peut aussi exacerber l'idée qu'il y a des vies qui valent plus que d'autres, notamment entre les très riches et les pauvres, par exemple, etc., etc. Donc voilà, on pourrait continuer encore longtemps. On va s'arrêter là. On va les applaudir. Bravo. Bravo. Ils dérôlent. Ils enlèvent leur rôle. Bon, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice-là, c'est se dire, OK, il y a une annonce, il y a des réactions. Derrière, on voit qu'il y a plein de sensations et d'émotions différentes, mais qu'il y a un fond de peur. Et si on descend, on voit que ces peurs-là, elles parlent de besoins qui ont besoin d'être satisfaits, de besoins à sauvegarder. Mais si on ne va pas jusque-là et qu'on s'arrête aux réactions de peur, on peut avoir un certain nombre de soucis. Imaginez un peuple où il y a un groupe qui réagisse comme chacun de ces 5 personnages et qui se rencontrent. Vous voyez ce que ça peut donner? Donc la question c'est, 1, est-ce que j'ai conscience que je suis dans une réaction de peur? Moi, ou les gens de mon quartier, dans mon travail? Je ne sais pas si on va faire ça en micro, vous nous entendez sans micro? Hein, ça sera plus agréable. Hein. Alors, moi je vais l'éteindre.
Et en fait, et pour commencer aussi, on va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe en nous, en fait, quand on entend ces récits de guerre. C'est comment pour nous. par exemple, pour toi, Karim, quand tu entends la phrase « nous sommes en guerre », qu'est-ce que ça fait?
Je ne veux pas juste me rattacher à ça, mais il y a une partie de mon identité culturelle qui est un peu inquiète. Quand je vois un petit peu ce qui peut être mis comme image pour les personnes d'origine étrangère, ah oui, j'ai une partie de moi qui peut se sentir un petit peu inquiète. Je vois qu'il y a dans notre histoire, il y a des hommes, des groupes politiques, dans les moments où il y a des crises sociales, économiques, où on a essayé de trouver des boucs émissaires un petit peu, des figures d'ennemis. Et moi, c'est des choses qui m'inquiètent, du coup. Vraiment, c'est des choses qui... L'idée de fédérer une population contre un ennemi commun, et puis au sein d'un même pays, moi, j'ai vraiment à cœur de, qu'on puisse trouver du discernement dans ces situations. Donc ouais, c'est un truc qui peut m'inquiéter quand je vois cette agitation autour du mot guerre, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a, dans ma façon de voir les choses, en tout cas, j'ai envie d'être pris en compte pour l'individu que je suis, et pas juste qu'on s'enferme à mon origine, en fait.
Et quelles ressources tu peux mobiliser pour ça?
Les ressources premières, je dirais que c'est, j'ai envie de dire, c'est la vie, quoi. La vie, ce que m'offre la vie, quoi. Et puis, je me rends compte que la première ressource, c'est à l'intérieur de moi. Tout à l'heure, je parlais de monde intérieur. Je fais des choix et qui sont régulièrement remis en question, mais que je prends le temps d'affirmer. Et le choix, des fois, il se fait, c'est un peu de manière binaire. Je fais quoi? Je choisis que ces personnes qui ont peur ou qui n'aiment pas les personnes d'origine étrangère, d'en créer un ennemi, et puis finalement de me battre contre eux, de lutter contre eux, ou est-ce que je fais un autre choix? Déjà, c'est le choix de voir ce que ça me fait. Qu'est-ce que je ressens face à cette situation où j'ai l'impression que ce que je représente, on l'exclut. Et donc, cette option que je choisis de revenir à moi, c'est déjà de retrouver du pouvoir, prendre conscience de ce qui est touché chez moi et les besoins qui sont en jeu. Et c'est cette partie-là qui m'aide. C'est cette partie-là qui m'aide à aller voir l'autre, à aller voir celui qui croit ne pas m'aimer ou qui dit qu'il ne m'aime pas. Vraiment ce décalage de revenir à moi, de voir ce qui est touché, de voir ce qui me fait violence, c'est ça qui est soutenant pour moi. C'est un peu comme quand je mets cette paire de lunettes pour voir mes fiches sur lesquelles je vois rien. C'est pareil. Si j'allume ma télé puis je prends juste le pic dans la tête et je ressors dehors, le premier que je vais croiser, il peut prendre cher. Et moi aussi, je peux prendre cher dans ce que je vais vivre à l'intérieur de moi. Et donc, la communication non-violente, c'est une des ressources précieuses qui m'a aidé à faire ce décalage, à bouger. Après, il y a des ressources, le yoga, la prière, plus des choses qui m'aident à sentir mon corps. Mais vraiment, cette dimension de la CNV et de mettre la paire de lunettes pour regarder ce que nous dit cette violence, ça, c'est un truc qui m'a soutenu dans ma vie et qui me soutient encore aujourd'hui.
Merci, Karim. Je suis touchée par ton partage.
Merci. Et toi, Elo, quand tu entends cette phrase, comment tu reçois les choses?
Alors moi, quand j'entends « nous sommes en guerre », déjà je vois que j'ai un nœud qui se forme dans la gorge. Ça descend un peu, il va s'installer vraiment dans le bas du ventre. Et en fait, j'ai tout mon corps qui se referme dans cette direction-là. Et je vois les bras qui se tendent et qui sont prêts à défendre ou à attaquer. Et si j'interroge cette sensation-là, je vois en fait que j'ai très peur. Et j'ai un besoin de sécurité qui est là derrière. Mais si je vais un peu plus loin dans ce besoin-là, et dans ce besoin de sécurité, je vois que c'est en tant que femme que ça m'intéresse. Même sans micro. Les entités, on les accueille. Parce que moi, j'ai grandi dans la dictature, pendant la dictature au Brésil. Et j'ai entendu beaucoup de récits de femmes, de la torture et tout. Et je sais que pendant les régimes autoritaires, les guerres, etc., on cherche souvent à contrôler les femmes et les corps des femmes. Donc là, en tant que femme, j'ai besoin de respect de mon existence et de respect de la parole et du corps de toutes les femmes, en fait. C'est là où ça me prend, vraiment.
Et c'est quoi les ressources que tu vas mobiliser pour
tout
ça, vivre tout ça?
Ouais. Alors là, c'est déjà la CMV aussi, mais moi je prends beaucoup d'appui. Tu as parlé du corps tout à l'heure. Moi je prends beaucoup d'appui sur le corps, mais à partir des références et des outils de la technique Alexander. C'est une pratique somatique. Et qu'est-ce qu'on fait en technique Alexander? On va aller vers nos réactions. On va observer nos réactions et en les observant, toutes les tensions qu'on a mis en place face à une situation, on se rend compte qu'elles sont des réactions inconscientes qu'on a mis en place juste même avant de penser, on a déjà réagi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se donne un peu de temps, un peu d'espace pour voir comment, qu'est-ce qui s'est inscrit en nous, qu'est-ce qui est inscrit en nous qui s'exprime dans ces réactions-là. Quand on prend l'espace, on peut revenir à notre axe et nous donner du support intérieur, ancré dans le monde, aussi pour défaire ces réactions automatiques et passer de la réaction automatique inconsciente à la liberté du choix des réponses conscientes. Et là, on s'ancre dans notre vraie puissance. Et à partir de ça, on peut aller, là, si je suis bien ancré chez moi, je peux faire face à une dictature sans perdre mes moyens. Et en gardant la liberté de choisir les actions qui sont ajustées à ce qui est important pour moi. Et pour les gens à qui je me relie collectivement aussi. Donc pour moi, c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place.
Merci beaucoup. Merci.
Ouais, surtout quand on pense à cette phrase, c'est quoi qui
me
dit pour toi?
Moi, déjà, je suis par vos témoignages, même si je les connais. Et quand j'entends cette phrase, alors je peux avoir un peu toutes les réactions qu'on a vues dans les personnages. Je pourrais essayer avec le micro, peut-être.
Ça va, là? Ok. Donc, quand j'entends cette phrase, je peux avoir, ben oui, un petit peu toutes les réactions des personnages, presque. Mais je vois qu'il y a aussi une part de moi qui se fige. C'est comme si je respirais plus au niveau du nez, là, au niveau de la gorge. Il y a comme une angoisse qui monte. Il y a quelque chose qui est vraiment très figé. Et quand je regarde ça, je vois que ça vient du fait que je suis chercheur et que ma famille vient de Pologne aussi. C'est un pays qui a connu les invasions, le fascisme, la dictature communiste, et que dans ce genre de pays-là, eh bien, les personnes qui proposent un regard,
je vais essayer sans ça, les personnes qui, c'est de la censure, non, les personnes qui, donc les personnes qui cherchent à avoir un recul critique, à analyser un petit peu la situation et à prendre la parole, les institutions aussi sont assez vite muselées de manière plus ou moins violente. Voilà. Donc moi, très clairement, c'est un besoin de sécurité pour la démocratie et pour moi-même, et un besoin de solidarité mutuelle pour vivre dans ce type de période-là. Voilà.
Et c'est quoi les ressources que tu as puisées pour faire face à ça?
Alors, à part la CNV, parce que vraiment, la CNV, c'est un ancrage qu'on partage ensemble. C'est une CNV que je pratique aussi pas mal par le corps, parce que c'est vraiment quand on est perdu, quand on est en état de choc, le retour au corps permet en fait de se retrouver, hein, de se remettre en chemin. J'aime aussi apporter du discernement sur la systémie, sur les systèmes sociaux, notamment sur le fait qu'on n'a pas tous les mêmes ressources pour satisfaire nos besoins et les mêmes manières pour le faire. Je m'explique. On a parlé de groupes d'appartenance comme personne d'origine étrangère, femme, origine du Brésil, chercheur, origine de Pologne. Enfin bon, on a des groupes d'appartenance. Mais au-delà de ça, on a des lignées, on a des civilisations et des classes sociales dans lesquelles on a été élevé. Et tout ça, ça nous a imprégné. Ça nous a imprégné et ça nous a donné une sorte de jeu de cartes dans le monde social. Okay, donc le jeu de cartes fait que selon qui je suis socialement, même si j'évolue dans ma trajectoire, eh ben, j'ai pas le même pouvoir, les mêmes ressources pour satisfaire ces fameux besoins dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Donc quand je rentre en dialogue, si je fais pas attention à différencier de pouvoir, ça va être très complexe. D'accord ? La deuxième chose, c'est que cette histoire-là dont je parle, eh bien, ça façonne mon intime. On a dit l'intime est politique. Mais politique au sens large du terme, c'est-à-dire que la société va façonner ma manière de penser, ma manière même de ressentir. Il y a des écrits entre sciences humaines et neuroscientifiques qui traitent de ces sujets-là. Ma manière de ressentir les émotions, ma manière de hiérarchiser les besoins dans une situation, de les ressentir, et bien sûr mes stratégies de mise en œuvre. Hein. Donc quand je prends en compte ça, eh bien, je vois les différences culturelles, on parle de diversité culturelle, etc. Mais c'est ça concrètement, moi, quand je rentre en dialogue, ne serait-ce qu'avec Eloïsa et Karine, quand on a préparé cette conférence, mais on n'est pas du même monde, hein. Donc il faut qu'on prenne en compte toutes ces différences, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va s'accorder et qu'on va pouvoir porter une voix commune. Donc c'est ça un peu moi que je veux faire en tant que chef. On a dit qu'on faisait une conférence corporative à trois. Ben voilà, nous on recherche modestement, petit à petit, un tout petit peu de non-violence, mais qui prenne en compte la diversité et l'équité.
Et quand on va, en fait, c'est...
Ouais, c'est très encourageant. Et je voulais faire un peu le lien aussi quand on pense à l'intime et politique. Ça peut aller très loin dans la sphère publique, en fait. Les luttes féministes ont bien compris, hein, elles ont souvent mis maintenant, souvent, on lit l'intime dans la place publique, et moi, j'ai pu témoigner de ça et participer de ça en Argentine. C'est très soutenant. Quand j'étais en Argentine en 2018, il y avait des énormes manifestations parce que en 2018, l'IVG était interdit, interruption volontaire de la grossesse, c'est comme ça, je pensais. Était interdite en Argentine. Il y a eu des énormes manifestations des femmes qui se sont regroupées, plusieurs luttes féministes différentes, pour aller manifester devant l'Assemblée nationale. Donc quelque chose de très intime, si je veux avoir une grossesse ou pas, c'était un sujet politique. On le met dans la place publique, on va devant le Congrès. Et là, c'était vraiment ça, vibrait. C'était 1 million de femmes à Buenos Aires. Et ça faisait, c'était une intensité, elle venait partout, elle dansait, elle chantait, elle se maquillait avec des paillettes ou rien du tout. Et c'était vraiment cette force, ça vibrait à l'intérieur de moi, et pas que à l'intérieur de moi, ça fait vibrer l'Assemblée nationale. Parce qu'en 2020, c'était devenu légal, l'IVG en Argentine. Donc voilà comment l'intime et la politique, si on le prend comme ça, ça peut bouger dans les sphères, les grandes sphères publiques. C'est un exemple d'Argentine, mais je crois qu'en France aussi, on peut voir des exemples de nos vies, de comment l'intime peut être, avoir un impact sur le collectif. Hein, Karine, tu veux nous partager?
Oui. Moi, j'ai vraiment la croyance et l'expérience que le corps, il est au cœur de la relation. Et c'est marrant parce qu'il y a une personne avec qui j'ai travaillé dans cette structure qui est présente dans la salle. J'ai travaillé pendant 4 ans, du Covid jusqu'à il y a quelques mois, dans une structure qui accueille des jeunes qui sont pris en charge ou placés dans le cadre d'une alternative à l'incarcération. Donc pendant 5 mois, 5 jeunes, 2 éducateurs, toutes les 24 heures qui tournent pour accueillir ces jeunes. Ces jeunes, en plus de leur créativité, de leur puissance de vie, étaient pleins de souffrances, de violences. Ils en étaient remplis autant dans leur intériorité que dans leur expression. Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Qu'est-ce qu'on faisait avec le collègue en question? C'était de ramener cette dimension du corps. C'était dans cette intensité de violence de leur donner la possibilité d'une, de reconnaître leur corps, la présence à ce qui est vivant pour eux, et la deuxième chose, c'était de reconnaître ce qu'il y avait derrière leur violence. Pas reconnaître en la désignant, pas reconnaître cette violence en nommant ce qui était derrière, mais en leur donnant la possibilité de l'exprimer, de la nommer, de l'extérioriser. Donc cette personne dans la salle, collègue éducateur et un psychologue, Khalid, nous aidait vraiment dans cette dynamique de prendre le corps en compte dans cette relation à l'autre. Maintenant, soyons réalistes. Khalid,
tout comme ce monsieur qui est venu tout à l'heure mettre le micro, ou mon collègue qui est dans la salle, c'est vive la coopération. Et moi, je ne vous illustre pas cet élément pour vous dire tout marche avec les jeunes violents, vous faites 2 heures de CNV, vous allez voir après, ils ressortent de là, nickel. Non, on parle de réalité. On a pris 5 personnages tout à l'heure, peut-être un peu fictifs, mais la réalité peut être encore plus dure, la violence peut être encore plus rude. Et il y a des personnes dans la salle qui le savent. Donc, moi, je ne viens pas noircir le tableau, au contraire. Je viens nommer ma foi en la coopération et que pour faire vivre cette coopération, la non-violence est une ressource précieuse pour moi parce qu'elle me permet de vivre et avec patience ce chemin pour aller vers la paix et la non-violence. Donc, comme dirait mon papa, d'une fève, tu peux créer un champ. Donc, merci vraiment à tous ceux qui ont organisé cet événement, aux personnes présentes, de cultiver cette idée de non-violence qui n'est pas qu'une idée, mais vraiment une vision de vie qui peut porter ses fruits. Donc je m'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Karim, c'est cette puissance-là, il a presque fait la clôture, mais je voudrais quand même rajouter une chose. J'adore. C'est 30 secondes et on a fini parce que c'est important. Je voudrais rajouter quand même la joie. Et en fait, la joie, je ne parle pas de la joie comme ça, mais vraiment la joie profonde, on n'invente pas ça. Hein. C'est plutôt un héritage. Les Noirs qui ont été amenés comme esclaves au Brésil, ils ont inventé la samba, ils ont inventé la capoeira, ils ont inventé les fêtes, les tambours, les danses, les chants. Et c'était... Pardon ? Voilà, à Feijoada. Ah, délice. C'était vraiment une connexion avec la joie profonde d'exister. En fait, et ça, c'est hyper important parce que ça nous permet de nous relier à l'élan de confiance. Et du coup, on sort de le management par la peur et on se relie à la confiance. Si on expérimente là tout de suite, si vous pensez quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, là. Enfin, voilà, déjà quelque chose que je vois que se détend chez quelques-uns des sourires. À partir de là, comment est-ce qu'on se relie aux autres pour créer quelque chose, pour créer des nouveaux récits? Et la question que nous avons, c'est quels sont les nouveaux récits que nous, ici, on veut créer ensemble dans ce forum? Merci beaucoup.
Obrigada.
Obrigado.